La protection de l'environnement. La pollution est de plus en plus présente dans notre vie quotidienne. Elle est une dégradation de l'environnement par des matières non naturelles qui se diffusent dans plusieurs milieux constituant notre univers. Ainsi, elle intervient aussi bien dans l'eau que dans l'air ou bien le sol. Elle détruit progressivement le milieu naturel en bouleversant l'équilibre interne. L'expansion des matières non naturelles, qui sont souvent toxiques, a par conséquent des répercussions non négligeables sur la santé humaine. La pollution de l'eau peut prendre différentes formes. Elle peut ainsi être thermique, bactériologique, chimique, etc. En effet, l'homme utilise de plus en plus de produits polluants. Ces derniers viennent souvent des usines qui déversent les eaux industrielles dans les fleuves et les rivières. La pollution de l'air, elle, est présente avant tout dans les villes. Elle est causée par le gaz d'échappement des voitures, des camions, ainsi que par la fumée des fabriques et par celle émanant des installations de chauffage des bâtiments. En l'absence de vent ou en cas de chaleur, cette pollution est accentuée. La qualité de l'air est analysée avec une échelle allant de 1 à 10, ce qui permet de la classer. En outre, certains procédés de fabrication émettent du gaz carbonique CO2 dans l'atmosphère, ce qui, à son tour, provoque la destruction de la couche d'ozone, protégeant la Terre des rayons ultraviolets d'une part et mène à la formation de pluies acides d'autre part. La pollution des sols est causée en grande partie par l'agriculture. Les agriculteurs utilisent de plus en plus d'engrais chimiques et de pesticides qui ne sont pas dégradables dans la nature. Ces produits sont ensuite entraînés vers les nappes phréatiques ou les cours d'eau qui vont eux-mêmes polluer les récoltes et les zones d'activité humaines. Les fabriques et usines peuvent être aussi de grandes pollueuses dans la mesure où elles n'assurent pas l'entreposage ou l'enfouissement conforme à la réglementation et aux normes de leurs déchets dangereux qui restent ainsi en contact avec le milieu naturel. À grande échelle, l'utilisation des matières polluantes est à l'origine des grands déséquilibres climatiques et notamment du réchauffement climatique dont le commencement remonte à la fin du 19e siècle. À moins de trouver les moyens d'arrêter ce processus de plus en plus menaçant, l'humanité sera confrontée à des phénomènes comme le réchauffement de la température moyenne de la Terre, la montée du niveau des mers entraînant la disparition de plusieurs pays insulaires se trouvant dans l'océan Pacifique et la migration des réfugiés climatiques. La mise en place d'une politique environnementale visant la protection de l'environnement et la préservation de la nature est devenue une priorité pour la communauté internationale. Afin de pouvoir garantir le maintien de la croissance sans compromettre le développement durable, cette politique devrait imposer aux pays un certain nombre de règles qui les obligeraient à passer dans leur production industrielle à l'utilisation des énergies renouvelables en abandonnant progressivement les énergies fossiles polluantes et à se convertir à la fabrication des produits recyclables et ou biodégradables. Rompre dans la production agricole avec l'utilisation des matières chimiques et toxiques. Réduire au minimum leurs émissions de CO2 et des gaz à effet de serre. À cette fin, toute entreprise industrielle dispose depuis 2005 d'un quota d'émissions de CO2 fixé. Si elle dépasse ce quota, elle doit racheter sur le marché du carbone des droits à polluer. Et c'est ainsi que, sur le marché du carbone, s'établit un prix d'équilibre. Le principe est assez simple. Chaque année, un quota d'émission de CO2 est alloué à chaque installation. Un quota égale une tonne de CO2. Si une entreprise émet davantage de carbone que la limite imposée par l'European Union Emission Trading Scheme, ETS, elle doit alors acheter un droit à polluer à une entreprise qui aurait consommé moins que son quota. Inversement, un industriel qui a dépassé son niveau d'émission autorisé devient débiteur. Il doit acheter des quotas ou les tonnes de carbone qui lui manquent pour rester en règle et éviter une amende fixée à 100 euros la tonne. Sur ce marché, le prix de la tonne de CO2 est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande. À partir de ce prix, les agents économiques décident ou non de réduire leur niveau de pollution. Un tel système permet d'inciter les pollueurs à réduire leur niveau de pollution pour ne pas supporter un coût trop important d'achat de quotas d'émissions. Si la prise de conscience au niveau international a tardé, elle n'en a pas moins fait des efforts pour secouer les esprits et pour les rendre plus éco-conscients, en organisant 11 conférences sur le climat. 1979, première conférence mondiale sur le climat, organisée à Genève par l'Organisation Météorologique Mondiale, OMM, et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNUE. La première conférence mondiale sur le climat traduit les inquiétudes grandissantes de la communauté scientifique sur les effets à long terme des émissions de CO2. Elle fait l'état des lieux des connaissances sur le climat et sur l'impact de sa variabilité et de son évolution sur les sociétés humaines. 1988, création du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Créé par deux institutions onusiennes, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNUE, et l'Organisation Météorologique Mondiale, OMM. 1992, sommet de la Terre de Rio. 1997, protocole de Kyoto. Adopté pendant la COP3, le protocole de Kyoto est le premier accord international contraignant sur les engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il entre en vigueur en 2005 au moment où 55 pays, qui totalisent 55% des émissions mondiales de CO2 en 1990, l'ont ratifié. Son ambition, réduire de 5% les émissions globales par rapport au niveau de 1990 sur une période allant de 2008 à 2012. 2007, le GIEC et Al Gore, prix Nobel de la paix. 2008, l'UE adopte le paquet énergie-climat. 2009, conférence de Copenhague. 2010, création du Fonds vert. 2014, cinquième rapport du GIEC. 2015, COP21 à Paris. 2017, accord de Paris sur le climat. Les États-Unis se retirent de l'accord prévoyant la lutte contre le réchauffement climatique au grand dam de l'opinion internationale. Un volet important des questions environnementales est le nucléaire. C'est un sujet qui divise toutes les sociétés modernes. En effet, ses partisans et ses détracteurs, avant tout les écologistes et les verts, qui sont en nombre presque égal, plaident avec la même ferveur pour ou contre la construction et le maintien des centrales nucléaires ou leur élargissement par de nouvelles tranches. Les arguments pour ont du poids. Les centrales nucléaires émettent beaucoup moins de CO2 que celles à énergie fossile et, en plus, elles ne polluent pratiquement pas. Elles travaillent avec une puissance et un rendement constant et fiable. On ne peut pas en dire autant des énergies naturelles, l'énergie éolienne, solaire, hydraulique, marémotrice. La construction et la mise en service de centrales s'appuyant sur ces énergies sont fort coûteuses et ne se rentabilisent qu'à très long terme. Pour ce qui est du nucléaire, il y a aussi le revers de la médaille, notamment le risque d'une catastrophe nucléaire. Celle-ci est survenue déjà à deux reprises, en 1986 et en 2011, alimentant le débat sur la question et devenant le cheval de bataille des écologistes.